Chers frères et sœurs, nous pouvons remercier l'apôtre Paul qui, comme à son habitude, nous remet un peu les pendules à l'heure et nous redit quel est l'essentiel, quel est le cœur de notre vie. Parce qu'il est si facile dans nos vies à 100 à l'heure de passer notre vie à ne pas la vivre, de courir après 1000 futilités en oubliant juste l'essentiel. Paul nous redit que tout se joue sur cette personne-là, sur la grande question, la seule question qui vaille au fond. Est-il vraiment ressuscité ? S'il n'est pas ressuscité, Paul nous le dit sans détour, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est pas qu'on est un peu malheureux, c'est qu'on est les plus à plaindre de tous les hommes. C'est vrai qu'on n'a pas l'air malin. Si tout ça c'est de la fable, c'est du mythe, on se réunit comme ça tous les dimanches, on a tout un tas de rites, on s'attache à lui, on le prie, on compte sur lui, et en fait tout ça ce serait du vent. Frères et sœurs, si demain matin on nous annonce qu'on a retrouvé le cadavre de Jésus, surtout je vous en supplie, ne revenez pas dimanche prochain. Tout cela serait vain. À l'inverse, si c'est vrai, s'il est vraiment vainqueur de la mort, si vraiment il nous ouvre l'autoroute du ciel, c'est quand même une super nouvelle. Parce que c'est ouvert pour nous tous, pour tout le monde, pour tous ceux qui acceptent d'une manière ou d'une autre de s'accrocher au Christ, alors le cœur de Dieu est grand ouvert. Et ça, c'est magnifique. Vous savez, le pape émérite Benoît XVI a écrit une lettre, certains l'ont lu sans doute, au sujet des scandales dans l'Église, et à la fin de sa lettre, de manière magnifique, le vieux pape émérite dit ceci. D'ailleurs, le pape François l'a remercié pour sa lettre. Et à la fin, Benoît XVI dit « À l'approche de l'heure du jugement, la grâce d'être chrétien me devient toujours plus claire. Être chrétien me donne la connaissance, bien plus l'amitié avec le juge de ma vie et me permet de traverser avec confiance la porte obscure de la mort. À ce propos, me revient sans cesse à l'esprit ce que l'apôtre Jean rapporte au début de l'Apocalypse. Il voit le Christ, le Fils de l'homme, dans toute sa grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais le Christ, posant sur lui sa main droite, lui dit « Ne crains pas, c'est moi. Ne crains pas, c'est moi. » C'est précieux, frères et sœurs. Et tout le but de l'Église, l'unique raison d'être de l'Église, c'est de nous conduire au Christ, de nous donner le Christ, d'entrer en contact avec le Christ. Voyez-vous, nous disons de l'Église dans le credo qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Le père Josselin, si mes informations sont exactes, a prêché sur la sainteté de l'Église. Donc je n'y reviens pas, mais je voudrais m'arrêter sur le fait que l'Église est catholique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Catholicos, vous le savez, ça veut dire universel. Mais ça a deux sens. Le premier sens, le plus évident, c'est que l'Église est universelle parce qu'elle est répandue par le monde entier, qu'elle est faite pour tous les hommes de la terre, tous, sans exception. En ce sens, elle est universelle. Et c'est vrai, moi, quand j'étudiais à Rome, quand j'étais séminariste, je voyais arriver chaque matin à la faculté grégorienne, là où j'étudiais, plus de 120 pays représentés tous les jours, qui étaient là. Je me disais, c'est fantastique, c'est ça l'Église. Et je voyais, on arrivait tous, par flot, pour entrer dans les amphis où nous étudions tous ensemble. Ça, c'est magnifique. Mais il y a un deuxième sens à catholique. Catholicos, ça veut dire aussi intégral. Ça veut dire que dans l'Église catholique, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour goûter Dieu, pour être conduit à Dieu, pour être sauvé, en fait. Est-ce que ça nous préoccupe, cette question ? Est-ce que je vais être sauvé ? C'est la grande question de notre vie, quand même, frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est curieux, ça nous paraît une petite question. C'est la grande question. En un sens, c'est l'unique question. Le curé d'Ars, quand on lui disait « Mais pourquoi vous êtes devenu prêtre ?» Il répondait avec les mots de son époque « Parce que je voudrais gagner des âmes au bon Dieu. » Et je me souviens d'un prêtre à Paris qui arrivait dans sa nouvelle paroisse, un journaliste de France 2 qui vient l'interviewer, qui lui dit « C'est quoi vos objectifs ? C'est quoi votre plan là pour la paroisse et tout ?» Le prêtre le regarde droit dans les yeux et lui dit « Oh, alors moi, vous savez, je suis très pragmatique. » C'est qu'on se retrouve un maximum là-haut. Voilà. C'est ça l'objectif. Ne perdons pas ça de vue. C'est l'axe de notre vie. Et dans l'Église, il y a tout ce qu'il faut pour cela. Vous savez, c'est une rencontre célèbre entre Saint François de Sales, qui était un grand saint dans l'Église, et d'un tempérament bouillonnant d'ailleurs, mais c'est beau parce qu'au fur et à mesure qu'il a avancé dans la vie, la grâce de Dieu l'a pacifié, l'a adouci, et aujourd'hui il est réputé pour sa douceur. Alors que lui raconte que des fois il sentait le sang qui lui montait dans le visage. Bon, bref. Et ce saint François était évêque de Genève. Mais comme Genève était devenue calviniste, il ne pouvait pas rentrer dans sa ville épiscopale sans être menacé de mort. Mais il y avait un vieux théologien calviniste, Théodore de Bèze, qui rêvait de discuter avec saint François. Et donc, un jour, François prend le risque et, en toute discrétion, il rejoint le logement de Théodore de Bèze. Et le vieux théologien protestant rencontre saint François et saint François lui dit « J'ai une seule question à vous poser, si vous permettez. Peut-on faire son salut dans l'Église catholique ?» Alors le vieux théologien réfléchit et il est très embêté. Il dit « Laissez-moi quelques minutes. » Il part dans la pièce d'à côté. Il se dit « Aïe, aïe, aïe. Si je dis à saint François que, non, on ne peut pas, il va me dire comment on a fait jusqu'à maintenant, pendant 1500 ans. » Et si je lui dis qu'on peut, ben il va me dire « Alors pourquoi vous êtes parti ?» Alors il transpire un peu et il revient et il dit à François de Sales « Je dois convenir qu'on peut faire son salut dans l'Église catholique. » Alors François lui dit « Alors pourquoi toutes ces guerres, ces divisions, etc., ces déchirures ?» Alors François le... Vous voyez, réalisez qu'il y a tout ce qu'il faut, frères et sœurs. Il y a la parole de Dieu. Oh, il y a toujours des petits malins pour dire « Ah oui, mais moi je veux bien la Bible, mais je veux pas l'Église. » Oui, mais mon petit bonhomme, qui t'a donné la Bible? On ne l'a pas trouvée sous un caillou. Figure-toi que la Bible, c'est un cadeau de l'Église. Donc si tu ne veux pas la, si tu veux pas l'Église, prends pas la Bible. Sois cohérent. Deuxièmement, on a aussi les sacrements. Mais quel cadeau! La vie de Dieu qui se déverse sur la terre, aujourd'hui. Et si vous êtes là ce matin, c'est que quelque part vous avez un peu faim et que vous êtes venu vous rassasier et vous allez recevoir le pain du ciel. Quel cadeau! Est-ce qu'on dit merci pour les sacrements? J'aime bien, parfois, ça m'arrive d'entendre des chrétiens qui commencent leur confession en disant « D'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour telle chose, et tous les cadeaux et les sacrements qu'il me donne, etc. » C'est beau quand même d'avoir de la gratitude pour tous ces cadeaux de Dieu. Vous avez aussi la succession apostolique, quelque chose de très important, qui fait que depuis les origines de l'Église sont transmises les ordinations d'évêque en évêque et de prêtre, et ce qui fait que effectivement, les ordinations sont valides et que donc, il y a dans l'Église ce grand flot qui nous relie aux origines. Ça, c'est très important aussi. Et puis, on pourrait citer plein d'autres cadeaux. Moi, je pense au credo. J'aime bien dire que c'est un bijou de famille. Mais c'est fantastique, ce credo que nous donne l'Église, qui nous rassemble tous dans la même confession de foi, qui nous permet de contempler le visage de Dieu, etc. On pourrait citer plein de choses. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour rencontrer le Christ. Mes frères et sœurs, attention, ça n'est pas une assurance vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se croient dans l'Église et qui malheureusement sont au dehors de l'Église, et il y a des gens qui se croient au dehors et qui sont au dedans. Donc attention, les frontières de l'Église ne sont pas celles que l'on pense. Et nous tous, nous devrions trembler à cette idée en se disant « Seigneur, est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que je suis bien dans ta main? S'il te plaît, est-ce que tu peux me garder dans ta main ?» C'est ça qui devrait nous habiter, voyez, une espèce d'inquiétude, de souci, de blesser Dieu, de nous éloigner de Dieu. Voilà le drame. Parce que l'Église, c'est un mystère de lumière et en même temps marqué par le mal, qui nous traverse tous, qui nous habite tous, qui défigure le Christ en premier. S'il est lacéré, s'il est sanguinolent, c'est à cause de notre péché. Il prend tout sur lui. Le Christ a tout pris, Marie aussi en a pris une grande part. Vous savez que le poète Peggy a décrit la Vierge Marie d'une manière qui a un peu choqué les catholiques de son époque. Peggy, vous savez, il a un itinéraire un peu torturé. D'ailleurs, il n'a jamais osé s'approcher des sacrements. Il ne s'estimait pas digne. Et ce Peggy-là, il nous dit qu'au jour de la Passion, Marie pleurait. Qu'elle pleurait, qu'elle pleurait. Il dit, en 3 jours, elle a vieilli de 10 ans. Elle était devenue si laide, dit Peggy. Voilà, les catholiques disent, ah bon, qu'est-ce qu'il raconte ? Ah oui, il dit oui, elle avait les yeux bouffis par les larmes, ensanglantées. Et il dit, jusque-là, Marie était reine de beauté. Là, elle a vieilli de son éternité. À partir de ces jours-là, elle devient reine de miséricorde pour les siècles des siècles. Vous savez, c'est beau ça. contempler le visage de Marie qui sourit, mais aussi le visage de Marie qui pleure, à cause de nous, tout simplement. La tristesse, c'est aussi la tristesse du Christ qu'on entendait dans l'Évangile, quand il dit « Malheur à vous, malheureux êtes-vous, malheur à vous, malheur à vous ». Jésus n'est pas en train de nous maudire, mais il exprime la tristesse de son cœur. Mais quel malheur pour vous, quelle tristesse de vous voir repu, de même pas avoir faim de ma parole et de mes sacrements, etc. La tristesse du cœur de Dieu, ça nous fait du bien aussi d'entrer là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. En terminant, je veux vous redire ces quelques phrases qui m'ont marqué. Quand Mgr Gobillard a été ordonné évêque auxiliaire de Lyon, il a terminé en disant ceci. « Église, mon amour, tu es ce vase d'argile qui contient la perle de grand prix. Je ne peux te séparer du Christ et je veux te faire aimer. » Amen.